Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWAS sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, trois personnages qui sont déjà venus il n'y a pas très longtemps, qui ont fait un interview le 13 janvier 2015. L'équipe des chiens de traîneau Vercors qui va participer au championnat de France de chiens de traîneau qui aura lieu le 14-15 février au Four dans le Haut-Doubs. Pour préciser, il s'agit de Willy et d'Alex. Il n'y aura pas Tania aujourd'hui, accompagnée de Zaïda, qui fait partie de la nombreuse équipe de bénévoles qui les soutiennent. Ils sont venus faire le point sur les opérations de communication qu'ils ont fait pour trouver des soutiens financiers, mais pas que, pour les accompagner dans cette entreprise. Et aussi annoncer le concert qu'ils organisent le 31 décembre à 19h chez eux à Chapia, avec le groupe Le Fil d'Ariam à 19h. Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour. Bonjour.
Bonsoir.
Eh bien écoutez, ça fait plaisir de vous revoir. On pourrait faire le point avant de parler de vos opérations de com, de votre préparation. Vous êtes prêts à participer à ce championnat de France ?
Ah bah oui, les chiens sont prêts, il reste un petit peu encore de travail à faire avec eux. Bon bah déjà dernièrement, ce qui nous a bien aidé, c'est quand même l'arrivée de la neige. Voilà, je pense que ça n'a pas enchanté que les mushers, ça a enchanté beaucoup de monde. Et du coup, bon, l'arrivée de la neige et l'arrivée d'un vrai hiver nous a permis de pouvoir avancer dans la performance de nos chiens, dans les performances de l'entraînement, notamment sur tout ce qui touche au foncier déjà. Et les chiens sont en pleine forme, ils sont heureux. Les mushers, ils sont un petit peu fatigués parce qu'ils ont le contre-coup du début d'arrivée de la neige, mais là on est très très motivés, tout est réuni pour que ça se passe bien.
Alors je parlais d'une équipe de bénévoles, c'était un vœu pieux de ma part ou c'est une réalité ? Il y a combien de gens qui vous aident dans cette aventure du championnat de France ?
Alors il faut dire qu'il y a une grosse équipe de bénévoles derrière nous, ça fait plaisir, ça nous donne du baume au cœur et en plus de ça ils sont assez compétents et dans tous les niveaux, c'est-à-dire la com, pour venir nous aider aussi sur la future soirée qu'on va préparer samedi soir. Voilà, donc on est à peu près une quinzaine je crois.
Et donc l'ambiance est chaude et chaleureuse.
Oui, oui, tout à fait. Tout est chaud et chaleureux, oui.
Alors, en parlant de com, est-ce que vous pourriez nous lister tout ce que vous avez fait pour susciter l'attention et le soutien de différents partenaires ?
Oui, en fait, tout a été fait. La presse régionale, la presse locale, la presse écrite, les radios. Voilà, il y a eu d'autres actions, comme par exemple la vente de crêpes sur le marché ou Séverine présentait aux gens la course. Il y a eu un bon de soutien qui a bien fonctionné avec beaucoup d'entreprises locales qui nous soutiennent financièrement. Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, j'en profite ici pour remercier tous les gens qui nous aident parce que d'un seul coup, d'avoir une équipe sportive, compétitive et positive, du coup, ça fédère. Voilà, c'est entraînant pour beaucoup de gens et on a eu une aide exceptionnelle du département de la Drôme qui nous soutient dans cette compétition avec entre autres monsieur le président, monsieur Didier Guillaume qui nous a répondu personnellement et plusieurs sénateurs qui nous ont répondu en direct. Voilà, donc on est très confiants et tout ce qui nous intéresse maintenant c'est de ramener au moins trois personnes sur le podium pour représenter le DIWA. Enfin, voilà, c'est le...
Voilà, en fait, il y a deux compétitions. Il y a celle qui va se jouer le 14-15 février au Four dans le Haut-Doubs. Mais la première, c'était de réunir les fonds et puis de voir tous ces gens qui nous aident. Ça nous a donné de l'élan, ça nous motive énormément. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui nous ont aidés financièrement et physiquement. Voilà.
Et matériellement.
Des gens... Et matériellement.
Zaïda, quand tu dis que Didier Guillaume vous a répondu personnellement, c'est qu'il ne vous a pas fait coucou seulement. Il a participé, il a mis la main à la poche peut-être ou bien ?
Oui, quand je dis il a répondu personnellement, c'est-à-dire que c'est quand même Monsieur le Président à qui nous avons écrit un vendredi 2 janvier à 16h20 qui répond à 20h20. Voilà, ça fait plaisir, qui nous félicite par rapport à l'engagement qu'on a, parce que étant donné que la neige n'était toujours pas arrivée et qu'au niveau de la saison, il y avait quand même à peu près 4-5 semaines de perdu, ce qui est vraiment un manque à gagner qui ne sera pas récupéré, et ça ne concerne pas que les mocheurs, ça concerne toutes les activités d'hiver sur le Diwa. Je pense qu'il a été sensible à cet élan positif en nous disant « bon ben voilà, dès lundi, je vois ce que l'on peut faire pour vous ». Et en effet, dès lundi, nous avons été contactés par le vice-président, nous avons déposé un dossier, etc., etc. Et en effet, nous avons eu une aide exceptionnelle du département pour participer à ces championnats. Donc voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Et quand les gens savent reconnaître un élan, il faut aussi savoir dire merci. C'est ce qu'on fait là d'ailleurs.
Ce qui est aussi bien, non seulement vous êtes, comme tu l'as dit, plein d'allant, mais aussi vous offrez une autre image de Diwa, un Diwa sportif.
Oui, je pense que le Diwa est très très hétéroclite. Et on peut aussi vivre dans le Diwa avec, par exemple, moi, ce qui me touche et ce qui me plaît dans le travail de William, d'Alexandre et de Tania, c'est aussi leur façon de travailler les chiens, qui a aussi une éthique, c'est-à-dire où les chiens sont bien traités. Il y a une réflexion derrière, c'est-à-dire qu'on est loin du chien de traîneau cliché, c'est autre chose. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est le chien de traîneau bio ou équitable pour parler voilà, avec un vocabulaire d'ici, mais ça a aussi une valeur, et c'est une valeur très très importante pour notre département. On est une enclave, on est une des enclaves les plus pauvres de la région Rhône-Alpes, qui elle est la deuxième région la plus riche de France. Donc ça veut dire qu'à un moment il faut aussi valoriser des initiatives qui sont des initiatives indépendantes, c'est-à-dire que nous c'est quand même la première fois qu'on sollicite de l'aide, et c'est la première fois qu'on sollicite un soutien financier ou voilà, une subvention pour participer à un événement. Mais c'est aussi important que le Diwa soit représenté comme quelque chose de positif, de sportif, d'élan, d'indépendance. C'est ça qui m'a plu et c'est ça qui fait en sorte que moi, je suis bénévole sur le projet.
Voilà. Et puis ça doit être sympathique pour vous de voir que effectivement, tant de personnes vous prennent au sérieux et vous accompagnent en fait. Parce que souvent dans des projets, au début tout du moins, on vous demande de faire vos preuves.
Oui, mais en même temps, William et Alex, ça fait 15 à 20 ans qu'ils sont dans ce secteur d'activité. On n'est pas avec, voilà, on est avec des gens qui ont quand même fait leurs preuves. C'est juste après, en travaillant, en démarchant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, les ambulances du Diwa, les établissements bouffiers, les rapides verts,
Twinner.
Enfin, je peux pas sortir toute la liste des gens qui nous soutiennent. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont là et qui se posent sur cet élan positif, parce que c'est important aussi.
Il y a aussi des gens qui se reconnaissent aussi dans ce qui se passe cet hiver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous qui souffrent du manque de neige, hein, parce que bon, nous, on amène pas mal de monde sur le Vercors et sur le Diwa pour faire l'activité, mais si ces gens-là ne viennent pas, ils ne dorment pas à l'hôtel, ils ne mangent pas au restaurant, etc. etc. Donc il y a quand même une échelle, quoi, une pyramide, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de neige, et ben tout le reste en dessous, ça découle, quoi. Voilà.
Oui, parce que par rapport à Tania, Willy et Alex, c'est quand même 1500 personnes par hiver qui découvrent le Diwa à travers le chien de traîneau. Donc voilà, et ça c'est quand même des potentiels de découverte et d'affectivité par rapport à ce Diwa méconnu. Et voilà, et c'est quand même une richesse économique qu'il faut continuer à faire perdurer. Il faut que ce soit pérenne.
De toutes ces demandes de soutien que vous avez lancées comme des hameçons à droite à gauche, est-ce que vous avez réussi à boucler votre budget pour participer à ce championnat de France ?
Alors, je m'occupe des comptes. Donc, en fait, pour que la participation à la course ne coûte pas d'argent à nos trois mocheurs et à leurs trois handlers qui sont les personnes qui les accompagnent et qui les soutiennent et qui s'occupent des chiens pendant la course, il nous manque exactement 745 euros. Voilà. Et là, je ne parle pas du manque à gagner parce qu'en fait, les deux jours où ils participent à la course, évidemment, ils ne travaillent pas. Et comme on a déjà commencé la saison avec 4-5 semaines de retard, bon, voilà. Mais ça, c'est un investissement personnel par rapport à l'élan compétitif. Mais pour que la participation à la course ne... Si vous aviez 745 euros, ça me ferait très plaisir.
Sur un budget de ?
Sur un budget de 4 200 euros.
Oui, mais justement, vous êtes venu pour annoncer l'événement, pas du siècle, mais en tout cas du mois de janvier dans le Diwa, à savoir cette fameuse fête, et peut-être qu'on peut envisager que la bière, les rentrées, etc. puissent combler ces 745 euros. Je vous le souhaite.
Bah exactement, oui. Donc on annonce officiellement ce soir une fête à Chapia, donc avec l'association Petit Chapia. Donc il y a un concert et il y aura une buvette et on fait aussi des repas. Donc tout ça va nous permettre peut-être de trouver la fin du financement de notre projet. Voilà. Donc faut savoir que tous les gens qui vont être sur la guinguette ce soir-là seront bénévoles. Donc c'est que des amis qui viennent nous donner la main. Donc on les remercie encore énormément parce que là il y a encore beaucoup de gens qui viennent nous filer la main. Et puis il y a notamment donc le concert qui va se passer à Chapia, donc c'est le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, donc c'est une longue histoire, pas d'amour mais presque, parce que le chanteur, violoniste, ben on le connaît depuis qu'il est petit, hein, il avait un an. Voilà, parce que c'est avec son père qu'on a aussi appris et a commencé à faire du traîneau sur le plateau du Vercors. Voilà. Donc on est assez content qu'ils aient répondu assez rapidement et nous ont dit directement oui, on viendra vous filer la main, on vous fera un concert gratuit pour pouvoir récolter des fonds pour votre projet.
Voilà, ils n'ont pas eu d'hésitation. Et puis le Fil d'Ariane est déjà un peu connu dans le Diwa. Je pense que certaines personnes qui nous écoutent ont déjà vu le Fil d'Ariane en concert. Et bon, ils savent que ça vaut le coup, quoi.
Le Fil d'Ariane, certes, mais alors de quel style parlons-nous ?
Du rock gypsy, voilà.
Balkanique. Avec violon,
flûte traversière, accordéon, une chanteuse,
voilà. Contrebasse.
Contrebasse. Il y a deux violons, tout à fait.
Et ils sont basés où ?
Ils sont dans la région lyonnaise.
Pour les gens comme moi qui aiment bien danser, c'est quelque chose qui est guilleret et qui est entraînant.
Je pense que tu vas mouiller ta chemise.
Il n'y a que ça, hein. Il n'y a pas d'autres sets de DJ ou je ne sais quoi. Ils vont jouer de 19h à point d'heure sans aucune interruption, parce qu'il faut y aller quand même. Hein.
Bah, y a une petite interruption de repas quand même. Faut...
Ça commence avec une introduction avec eux, un repas, et puis après ça continue.
Ouais. Il y a aussi Steph qui va venir faire un peu de mix sur la guinguette là. Donc du coup, il y aura une introduction avec Steph, que tout le monde connaît, hein, parce qu'elle fait son émission aussi ici.
Le dictionnaire du rock'n'roll.
Le dictionnaire du rock'n'roll, tout à fait. Et donc, ensuite, il y aura une petite pause. Et ensuite, ce sera le groupe Le Fil d'Ariane qui passera.
On veut quand même... William en a parlé. Mais il faut comprendre que nous, là, on est en plein hiver, on est en pleine saison. On travaille tous les jours avec William et Tania. Et que là, il y a un concert qui se passe chez nous. Et que, en fait, ça va être toutes les autres personnes de l'équipe qui organisent le concert. C'est pas nous, là, ces temps-ci, qui organisons le concert. Là, ces temps-ci, on est levé à 6h et on rentre chez nous à 19h. Ça donne une appréhension de toute la grandeur de cette équipe. C'est-à-dire que là, ce soir-là, ben nous, on va pas gérer grand-chose. On va arriver de traîneau et mettre les pieds sous la table.
On va participer à la soirée quand même.
On va participer à la soirée quand même, bien sûr. Mais du coup, et le lendemain, on repart faire du traîneau. Du coup, pour ceux qui ont connu un petit peu les guinguettes à Chapia, voilà, là, nous, c'est pas nous qui nous en occupons. Du coup, tout va être anticipé par toute cette équipe de bénévoles qu'on remercie encore beaucoup.
Oui, puis je pense que ça va vraiment être un moment qui va allier la fête, une partie conviviale avec un repas, avec voilà, tout est fait maison évidemment, et aussi une façon de rencontrer les mocheurs et la mocheuse de façon différente sur leur projet, autour d'un repas, autour d'un verre, danser évidemment. Et je pense que ça, en plus ça se passe à Chapia, à proximité du chenil. Donc les gens vont pouvoir aussi découvrir l'endroit où vivent nos mocheurs, puisque en démarchant, on s'est rendu compte que beaucoup, à part évidemment les vétérinaires, que je remercie aussi d'ailleurs pour leur soutien, etc., mais beaucoup de gens ne savaient pas que Di avait des mocheurs fantastiques à Chapia.
Donc,
non mais tout le monde connaît Chapia, mais après, alors, vous avez des mocheurs, ah bon, on a des mocheurs, ou ça, à Di
on est très très discrets.
Voilà, ils sont très très discrets.
Alors je tiens à le rappeler, je l'ai dit en introduction, c'est que pour les gens qui voudraient écouter un interview plus charnu sur vos activités, ils peuvent aussi aller sur RDWA, je mettrai le lien sur la page de cette interview. Mm-hmm. Vous avez déjà un petit peu décrit votre métier, votre passion, et votre engagement, et puis ce que représente pour vous ce championnat de France. Voilà, souvent une chanson vaut mieux qu'un long discours. Je vous propose d'écouter la quatrième chanson qui s'appelle « Venez faire la fête à Chapia » du Fil d'Ariane.
C'est leur dernier album.
Sur leur dernier album qui s'appelle « Venez faire la fête à Chapia ». C'était donc « Venez danser à Chapia » par le Fil d'Ariane. Et puis, et je vous ai déjà posé la question tout à l'heure concernant votre degré de préparation pour ces championnats de France, mais vous m'avez répondu pour vous, mais les chiens se sentent-ils prêts, eux ?
Les chiens, ils se sentent prêts. Ça fait quelques jours maintenant qu'ils s'entraînent. On fait le foncier là en ce moment, donc ils travaillent pas mal la musculature dans la poudreuse, dans les longues distances. Donc du coup, là, il nous reste en préparation surtout On va déjà les faire masser, on va aller voir l'ostéopathe. Voilà, donc ça, voir s'il n'y a pas quelques petites faiblesses sur certains de nos athlètes. Donc voilà, la vétérinaire de la Chapelle-en-Vercors qui est ostéopathe canin, donc va regarder si tout va bien, si tous les chiens peuvent participer à la compétition.
Il faut savoir que sur une course, de toute manière, pour participer à une course, il faut que chaque chien ait un certificat de bonne santé. Voilà. Donc c'est quand même un effort assez conséquent pour nos chiens. Il leur faut une très grosse préparation. Et toute cette préparation est chaperonnée, je dirais, par nos vétérinaires qui sont Tristan et Céline à la Chapelle-en-Vercors, qui sont nos vétérinaires principaux parce qu'ils sont, spécialisés notamment dans les chiens du sport. Et du coup, il y a tout un protocole après qui est avant la course et un protocole pendant la course qui est donc chapeauté par ces vétérinaires. Et du coup, il va avoir un suivi avant et après. Voilà. Donc là, je crois que c'est jeudi, on amène tous les chiens. Donc ça représente quand même 24 chiens que Céline et Tristan vont ausculter pour être sûr qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Contrôle bien sûr des vaccinations parce que sur les rassemblements où il y a beaucoup d'animaux comme ça, comme les championnats de France ou comme n'importe quelle course de toute manière de chiens de traîneau, déjà nous, de par nos professions, on est on a un suivi sur la meute et puis que ça soit au niveau de l'identification et de la santé. Et là, c'est d'autant plus important sur une course parce qu'il y a un rassemblement d'animaux. Du coup, pendant cette séance, on va pouvoir voir s'il y a des soucis au niveau, comme disait William, au niveau musculaire, parce que déjà, les chiens ont travaillé quand même pas mal, voir au niveau musculaire, voir au niveau des articulations, et de cette manière, exclure tous nos petits chiens qui, malheureusement, risqueraient, il y aurait un risque réel pour eux qu'ils vivent mal cette course. Quoi. Voilà. Les courses qu'on a faites séparément avant qu'on soit en équipe avec William et Tania, notre grande fierté avant d'être sur un podium, c'était chaque fois qu'on a ramené les chiens nickel. Et ça, c'est la base du truc. Voilà. On ne fait pas ça pour un podium, on s'en fout. On fait ça pour partager des choses avec les chiens. Et du coup, c'est vraiment ramener les chiens nickel.
Tu as dit que vous aviez besoin de 24 chiens, mais vous avez un peu plus de chiens s'il y en a, mettons, deux ou trois qui sont un peu faiblards.
Ouais, bien sûr. Comment dire, t'as une team A et une team B. C'est-à-dire, on a les chiens les plus performants. Après, les chiens les plus performants, c'est souvent les chiens qui se blessent aussi. Pourquoi? Parce que c'est les chiens qui se donnent à fond, c'est les chiens qui se gèrent pas et qui ont facilement des traumatismes. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on vérifie pour pas les emmener dans une course où ils vont se mettre à fond et que là, ils puissent se faire mal. Voilà. Après, oui, on a quelques chiens de remplacement ou bien on court avec moins de chiens, c'est tout.
Des chiens de remplacement avant la course. Parce que pendant la course, il n'y a pas de remplacement de chiens.
Si je me rappelle bien, on peut les mettre sur le traîneau.
Tout à fait.
Voilà. C'est-à-dire que Willy et Tania, ils courent en 6 chiens et moi en 12 maximum. C'est-à-dire que peut-être le premier jour, après c'est de la stratégie. Peut-être je partirai avec 10 chiens pour en garder un au repos. Et le lendemain, je vais partir qu'avec 9 chiens parce qu'il y en a qui sont fatigués. Voilà. L'idée, c'est que tu as 6 chiens ou 12 chiens maximum. Voilà.
Il vaut mieux un chien de moins qu'un chien fatigué.
Ah oui, et, tout à fait.
Oui, enfin, à la fois pour le résultat, mais surtout pour le chien fatigué, quoi.
Ah. On peut imaginer qu'un chien fatigué tracte moins, mais tracte quand même un peu.
Non. Il va ralentir l'attelage.
Il va ralentir l'attelage, et puis ça sera pas une bonne expérience pour lui, et puis il risque de se blesser. Non, on part pas avec.
Et puis c'est pas dans la déontologie de leur travail.
C'est ce que j'ai compris, oui. Voilà. Alors, petite piqûre de rappel, on l'a déjà dit dans le premier interview, mais est-ce que vous pourriez nous rappeler en quoi consiste ce championnat de France? Quel type de course? C'est de l'endurance, c'est de la vitesse, et ça dure combien de temps et combien de kilomètres?
C'est ce qu'on appelle de la mi-longue distance, d'accord? Il y a plusieurs catégories de courses, il y a le sprint, la mi-longue distance et la longue distance. Nous, on est dans la mi-distance, c'est deux étapes de 40 kilomètres, voilà, qui vont se dérouler entre 2h15 et 2h45 pour les autres, quoi.
C'est-à-dire qu'il faut 2h45 pour faire ces 40 km?
Avec 6 chiens, on va mettre... Enfin, tout dépend de la glisse. Hein. S'il y a une bonne glisse, on mettra 2h30. Alex, avec 8 chiens, il ira beaucoup plus vite. Mais voilà, c'est à peu près le temps qu'on va mettre. Ouais.
Voilà, donc du coup, c'est deux étapes. C'est la même étape hein, quand même. C'est deux étapes de 40 km. 40 km le premier jour, 40 km le second jour. Voilà, et on disait, donc il y a 2h30 de course. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas 2h30 de travail. Ça sous-entend qu'il y a une grosse préparation des chiens au niveau de... Alors pareil, c'est toujours un protocole et une stratégie sur l'hydratation, l'alimentation, pour que les chiens, eh ben, ils aient pas de problème, pour pas qu'ils aient soif pendant la course. C'est pas compliqué. Un chien qui a soif, il ralentit pour manger de la neige. Voilà. Donc, un chien qui a été bien hydraté avant, un chien qui a été bien alimenté, un chien qui s'arrête pas aussi pour faire ses besoins pendant la course, ça demande un timing. Et après, derrière, c'est vraiment des athlètes, c'est-à-dire eh ben, qu'on a de la récupération active, c'est-à-dire eh ben, quand on rentre, on s'arrête un petit moment, mais pour que les chiens aient vraiment envie de s'hydrater et de manger, eh ben on part les promener, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils restent statiques. Après, derrière, il va avoir étirement, massage. C'est pas un travail que l'on peut faire seul en tant que musher, parce que nous aussi on a, je dis pas qu'on s'occupe pas des chiens après la course, mais nous on a 2-3 choses aussi à gérer pour que nous on puisse avoir la pêche pour repartir le lendemain. Donc nous aussi on fait un peu de récupération active, c'est-à-dire que quand t'as couru avec les chiens pendant 2h30 qui fait moins 15, et ben repartir un quart d'heure après faire un petit footing pour faire de la récupération active, faut quand même un petit peu motiver. Et après, les soins des pattes, vérifier que les chiens sont en parfaite santé. Après, on les met au chaud. Après, on les ressort pour les hydrater, pour les alimenter encore. Remassage, re-soin des pattes. Et voilà, le lendemain, il y a encore l'autre étape. C'est un travail d'équipe qui est quand même assez lourd. Et c'est vraiment sur la récupération des chiens et puis l'entretien des chiens qu'on voit la différence. Il y a l'entraînement aussi, mais il y a tout ce travail-là qu'il ne faut vraiment pas rater le jour de la course. Et à la fois, lorsqu'on veut continuer dans la course, pour que le chien soit dans des très bonnes conditions et qu'il ne vive pas ça comme un traumatisme et que la prochaine fois, on l'amène sur une course, il a vraiment envie d'y retourner, et nous aussi, et voilà.
Alors, c'est tout à votre honneur, cette déontologie et cette éthique.
C'est beau.
C'est beau. Ouais. Et qu'en est-il de vous? Est-ce que vous avez une préparation spécifique? Et est-ce que c'est aussi physique pour vous que ça doit l'être pour les chiens?
Ah oui, c'est physique parce que... Dans tous les plats, il faut patiner, donc il faut aider les chiens en patinant comme une trottinette, un skateboard. On a aussi des bâtons de ski qui nous aident à pousser le traîneau, à aider les chiens pour alléger le poids du corps du traîneau pour pouvoir aider les chiens, voilà, tout simplement. Et dans les montées. Dans les montées, il faut courir, voilà. Donc que ça soit une petite bosse ou une grande bosse. Alors c'est pareil, il y a une stratégie, c'est-à-dire que quand on commence à courir dans une bosse, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas s'arrêter au milieu. Parce que il vaut mieux attaquer une bosse sur le traîneau et puis finir en courant que d'attaquer en courant et de finir sur le traîneau, parce que ça coupe l'élan des chiens. Donc voilà, c'est si on attaque la bosse, on court jusqu'au bout. Voilà, donc on s'arrache jusqu'au bout.
Enfin, tu peux rester sur le traîneau si tu veux, mais bon, tu gagneras pas la course, quoi.
Voilà.
Et tout à l'heure, tu parlais du foncier. Je pense que c'est bien de préciser à nos auditeurs qui ne connaissent pas.
C'est vrai que j'ai fait semblant de comprendre, mais j'ai pas compris.
Oui, moi je sais que plein de gens ne savent pas, si tu veux bien expliquer.
Bah, je sais pas, le foncier, c'est toute la préparation du chien. C'est comme...
Travailler sur l'endurance.
Voilà, c'est la musculation, quoi. Voilà, on prépare la musculation. En fait, le chien, à la base, au départ, on va le muscler. On n'est pas obligé de le faire courir très longtemps sur de longues distances, mais par contre, on va le faire tirer en force pour qu'il acquiert une musculature adaptée après pour courir plus longtemps et plus vite. Et après, plus on va aller vers la compétition, plus on va rallonger les temps de course. On va pas courir sur 40 bornes tout le temps avant la compétition. On va faire ça une fois ou deux, juste pour voir si les chiens y tiennent. Voilà. On va plutôt les entraîner sur 30 bornes, hein, pas sur 40. Mais on va les faire travailler après plus sur la vitesse. Voilà. Donc avec moins de poids, avec une meilleure glisse, etc. Voilà.
En fait, le foncier, c'est sur l'endurance. Et après, la deuxième partie, c'est sur la vitesse et c'est aussi sur le mental. C'est-à-dire que les chiens, tu peux pas leur demander d'aller vite tant qu'ils ont pas cette capacité, ils se sentent pas à l'aise dans leur capacité physique. Et c'est vrai que ça, par rapport à notre activité professionnelle à côté, nous, sur l'endurance, et ben, sur le foncier, c'est assez facile de travailler dessus, tu vois. Lorsqu'on part à la journée avec des débutants en traîneau, lorsqu'on part sur une journée, on fait selon les conditions de neige et selon la chaleur. Parce que les chiens, ils travaillent bien quand il fait froid, donc sur des températures négatives. On fait facilement entre 20 et 40 km sur une journée avec des débutants.
D'accord ? En intervalle.
En intervalle, bien sûr. Du coup, là, les chiens, ça les travaille en foncier. Là, par exemple, ben, on a fait un raid de 3 jours. Parmi les prestations qu'on propose, on propose de la demi-journée, de la journée, et on propose aussi de partir plusieurs jours. Là, on est parti, je crois que c'était le week-end dernier.
3 jours.
Voilà, on est parti Willy, Tania... et moi, et on avait 7 personnes avec nous. Bon, on est parti 3 jours sur le plateau d'Ambelle, au départ de Fondure, le plateau d'Ambelle, Dormir, Tubané, Ambelle. On est en dehors des pistes damées, Donc il a fallu que les chiens fassent la trace. Quand ils n'en étaient pas capables, il a fallu que nous, on fasse la trace. Voilà. Je rappelle que juste la veille au soir, j'avais eu la bonne idée d'aller racheter une paire de raquettes chez Twinner, qui m'ont bien servi. Voilà, du coup, là, pendant 3 jours, eh ben, les chiens, ils ont brassé de la poudreuse. Ils ont été 24 sur 24 avec nous. On dormait en refuge. Ils dormaient dehors avec des... alors, ils ont des manteaux. Tu vois, les manteaux des petits Yorkshire, eh ben, beaucoup plus grands, prévus pour eux, quoi. Et ça, ça les fait vraiment travailler en foncier. Ça les fait travailler aussi sur le mental parce que, du coup, tout s'est bien passé. Ils étaient tous ensemble. On était tous réunis ensemble avec les chiens. Et puis, comme je te dis, on est 24 sur 24... avec eux. Bon, les chiens, quand ils rentrent de 3 jours de raid, déjà, il y a un gros boulot. Et quand on renchaîne le lendemain, et ben, le lendemain, non, on n'a pas trop bossé, mais du coup, le surlendemain, quand on aura bossé sur une journée, bon, on voit que les chiens, ils ont eu du gain, quoi. Voilà. Nous aussi, d'ailleurs, parce que je vais te dire qu'on n'est pas resté sur le traîneau. Là, pendant 3 jours, ça a été banzai, quoi.
Oui, justement, tout à l'heure, personne n'a répondu tout à fait à ma question, savoir que vous aussi, vous avez une formation spécifique.
Alors, juste avant la réponse sur la formation spécifique, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, Tania, Willy et Alex, avec tout ce DIY qui est derrière eux, là, par contre, je pense qu'ils ont vraiment une grosse pression psychologique parce qu'ils ne peuvent pas revenir.
Bredouille.
J'osais pas dire le mot comme ça.
C'est pas possible, de toute façon. Donc alors, vous, vous avez un mental d'acier, mais forgé à force de courir derrière ces traîneaux, ça vous forge le caractère, je suppose.
Bah, déjà, le premier muscle le plus important chez le chien et chez le musher aussi, c'est ce qu'il a entre les deux oreilles, c'est-à-dire le mental. Voilà, donc ça, c'est le premier muscle. Et après, la condition physique, tous les jours, on la maintient, hein, parce qu'on fait du traîneau tous les jours là, en ce moment. Là. Et quand on, comme dit Alex tout à l'heure, on a passé 3 jours à tubaner en belle, avec de la poudre jusqu'à mi-cuisse. Quand tu es en montée et que tu dois tracer devant les chiens à mi-cuisse, ça fait les muscles.
Bon, je t'avoue qu'on n'était pas encore super prêts à ce moment-là, mais quand on est ressorti de là, la première journée nous a fait un peu drôle. Le soir, on n'a pas fait les fous, mais après, on était au top. Hein.
Oui, alors on en revient à cette période de neige qui est très récente. Ça vous handicape d'avoir commencé si tardivement votre saison pour votre préparation, peut-être?
Oui, mais c'est pareil pour tout le monde.
Ils n'avaient pas de neige dans le Jura non plus?
Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'endroits où il y avait de la neige, où ils pouvaient s'entraîner sur de longues distances comme ça.
Donc vous êtes tous sur la même base, quoi?
Normalement, oui.
Ouais, on est à peu près tous sur la même base. Ouais.
Après, on a un avantage sur certains... Beaucoup de compétiteurs ne sont pas professionnels, donc ils ont leur chien, donc ils travaillent toute la semaine, donc ils n'ont pas forcément le temps d'entraîner non plus comme nous on fait tous les jours, on est à 100% avec les chiens tout le temps, donc eux ils n'ont pas cette possibilité là, donc du coup on a cet avantage là, voilà. Et donc en plus comme il n'y avait pas beaucoup de neige ou pas du tout, ils n'ont pas forcément entraîné, enfin ils ont même moins entraîné que nous, quoi.
Ouais, moi je suis pas d'accord avec toi, je trouve que la grosse différence avec eux, c'est que nous on a la niaque, c'est tout.
Il y a combien d'équipages qui vont concourir?
Pour l'instant, on sait pas, ils ont pas annoncé sur le site internet de la fédération, ils ont pas annoncé le nombre de concurrents, quoi.
Ouais, parce qu'ils attendent la fin de l'inscription, c'est à la fin du mois. Voilà, c'est le 31 janvier que ça s'arrête là, et après on va savoir contre qui on va courir.
Là, on va mettre des clous.
Je te suis pas.
Sous les pneus.
Après, je veux bien faire une toute petite parenthèse. Vas-y. C'est que je pense qu'à l'avenir, dans les années à venir, il va falloir avoir une vraie réflexion sur si la neige continue à arriver de plus en plus tard et être de plus en plus chiche. Je pense qu'il va falloir avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce qui va se passer si la saison d'hiver est de plus en plus courte. Pour tous les partenaires et toutes les personnes qui travaillent en hiver, surtout sur une enclave comme la nôtre.
J'entends bien, mais ceci dit, ce débat, qu'est-ce que tu veux de lutter contre la nature, quoi? S'il n'y a plus de neige,
non, mais
ça veut
dire
obligé de devenir basson, peut-être, ou je ne sais quoi.
Voilà, non, mais je veux dire qu'il va falloir réfléchir à anticiper aussi cette situation, et pas seulement vis-à-vis des mocheurs, aussi vis-à-vis des stations, tout ça. Je pense qu'il va falloir avoir une réflexion assez global, et ce serait assez judicieux de commencer à y réfléchir. Je pense qu'il y en a déjà qui ont commencé à réfléchir, mais ça va être un vrai problème. Là, la neige est arrivée quand même avec 4-5 semaines de retard. C'est pas négligeable. On ne sait pas combien de temps elle va durer. Voilà, c'est quelque chose d'important aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des initiatives un peu de sursaut comme ça, d'élan actif par rapport à ça. Voilà.
En tout cas, on vous invite tous à venir samedi soir à Chapia. Donc, départ des festivités à 19h avec le fil d'Ariane.
Petite précision, comment peut-être trouver Chapia ? Nous indiquer comment on fait pour trouver Chapia ?
Chapia, donc Dodi, il faut prendre la direction de Cray. Au niveau de la déchetterie, il faut faire le contour de la déchetterie. Et ensuite, il y a le passage à niveau à passer. Et c'est la deuxième entrée à droite. Il y a un chemin, il faut faire à peu près 2,5 km sur le chemin et on arrive à Chapia.
Et c'est affiché.
Ça sera affiché, il y aura des panneaux dès la déchetterie. Quoi.
Donc, braves gens, n'hésitez pas à venir festoyer avec l'équipe de Musher qui va participer au championnat de France, le fil d'Ariane, pour la modique somme de 5 euros, mais c'est indicatif. Hein. N'hésitez pas à vous lâcher, ça mange pas de pain.
Venez dépenser vos étrennes, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de souci.
Et on a préparé des bons repas.
Des bons repas, ça c'est un petit peu en plus, quoi, le repas, non ?
Oui, c'est en plus, oui.
Bon, d'accord. Normal. Messieurs, dames, je vous remercie d'être passés. Et
merci
je
beaucoup.
Je vous souhaite un bon championnat de
France. Merci, Erdi, ouais.
Merci.
Merci, Louis.
Merci, au revoir.
Interview.